Radio Kapi.
Un civil a été tué, deux autres grièvement blessés, des maisons incendiées. Bilan encore provisoire des affrontements signalés ce mercredi entre les Mai Mai Bilosé Bichambouké contre les Turanéo dans les hauts plateaux de Bibokoboko. Les détails dans cette édition du journal. Révolté par le naufrage d'un convoi de pirogues motorisées survenu mercredi dernier à Bumba, faisant plusieurs morts et plusieurs disparus, l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo appelle le ministre des Transports de sévir contre le commandant de ces convois et la négligence des autorités fluviales. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Fidèle Ikinda, député national membre de l'opposition FCC. Il revient sur le rejet de la motion de défiance initiée par l'opposition contre le ministre de PTNTIC sur la question de la taxe RAM. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les territoires de Fizi au sud Kivu, un civil a été tué et deux autres grièvement blessés et des maisons incendiées. Tel est le bilan encore provisoire des affrontements signalés ce mercredi entre les Mai Mai Bilosé et Bichambouké contre les Turanéo. Ces combats se sont déroulés dans le moyen plateau de Bibokoboko et ses environs, c'est à 27 km à l'ouest de Baraka. Fiston Goma.
La coalition de Mai Mai Ebouela et Bilosé Bichambouké a lancé des offensives tôt le matin vers 6h sur Bibokoboko et ses environs contre les Turanéo. Des sources locales ne donnent aucune raison de ces affrontements. La même source locale affirme que les villages les plus touchés sont Magunga 2, Muhebwa et Ngando, où des incendies criminels de maisons et d'autres dommages ont été signalés. Les civils victimes de cette attaque appartiennent à une communauté locale. Les habitants de Bibokoboko, en majorité Banyamulenge, ont exprimé leur inquiétude concernant les vides laissés dans la zone par les FRDC déployés ailleurs pour des raisons opérationnelles. Signalons que depuis quelques jours, plusieurs cas d'alerte ont été partagés sur des attaques potentielles contre les villages de Bibokoboko. Dimanche dernier, des combattants du groupe Yakutumba ont été déployés dans les localités de Kirambi, Kabugu et Ibua, au nord-ouest de Baraka, pour bloquer la progression des combattants Turano Gumino vers Bibokoboko. Selon des sources de sécurité dans la zone, les mouvements des Gumino ont été observés de manière récurrente au cours des 4 dernières semaines dans la zone. D'Ouvira Fiston Mamayaba, la Radio Kapi.
Pendant ce temps, Goma, au moins 4 armes et 5 chargeurs garnis de balles, ainsi qu'un camion chargé de bâches militaires et 10 motos utilisées par les présumés bandits urbains ont été récupérés ce mercredi lors d'un bouclage dans le quartier Kieshero. C'est dans l'ouest de la ville. Selon les sources du secteur opérationnel Soukola 2, 286 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles 6 présumés sujets rwandais, 3 policiers et 9 militaires. Selon le commandant de la 34e région militaire, ce bouclage a été organisé en réponse à une recrudescence des cas de banditisme dans cette partie de la ville de Goma. Le général de brigade Ghislain Tshikobo, dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangi.
Nous avons eu d'abord 4 armes détenues par les policiers et militaires dont nous avons cherché à savoir qui sont et quelle utilité. De 2, nous avons trouvé un long très important, des bâches de couleur militaire dont le propriétaire est en difficulté pour nous expliquer comment a-t-il reçu l'autorisation pour pouvoir acheter le matériel militaire. Derrière vous, vous voyez que nous avons presque une dizaine de motos sans documents, dont nous ne connaissons pas les propriétaires. Et nous avons 286 interpellés, dont la police devrait se mettre au travail pour pouvoir checker un à un pour savoir qui est qui fait quoi. Vous savez que Kichero a été, ces derniers jours, le bastion de l'insécurité. Ça fait plus ou moins 3 tentatives de vol dans la semaine et nous avons décidé de passer par là.
Et puis, la situation sécuritaire dans la région du Grand Nord Kivu impacte négativement le comportement des membres de la société vis-à-vis de la femme. C'est ce qui ressort d'une évaluation ce mercredi des activités du programme de l'ONG SAFDF, Solidarité des associations féminines pour le droit de la femme et de l'enfant, sur la promotion de la masculinité positive et lutte contre les violences basées sur le genre. Un programme exécuté dans les territoires de Beni et Lubero. Les explications de Grévis Salomon.
Il s'agit d'un programme qui a été lancé
lancé depuis l'année dernière visant à faire participer les hommes dans la prévention des violences basées sur le genre et la promotion de l'égalité. À cet effet, la SAFDEF avait largué sur le terrain 30 hommes appelés ambassadeurs de la masculinité positive afin de sensibiliser leurs pairs au sein de la communauté. Zawadi Bissomeko, secrétaire exécutive de cette organisation féminine, exprime sa satisfaction au vu du travail abattu jusque-là par ces hommes volontaires.
On n'a pas encore atteint l'égalité entre les hommes et les femmes, mais le fait qu'il y ait cette mise en question de certains comportements qui alimentent les inégalités, nous estimons que c'est une chose positive dans notre lutte.
L'insécurité dans la région ne permet pas aux femmes de jouir pleinement de leurs droits. C'est l'un des défis à ces programmes évoqués par Mumbere Kivuya, l'un des ambassadeurs venus de la chefferie des Bachou en territoire de Béni.
La situation sécuritaire que nous traversons handicape le beau changement des comportements vis-à-vis de la femme. Nous espérons que ça va revenir à la normale pour que les violences basées sur les genres puissent quand même cesser.
Cette campagne qui va se poursuivre dans la communauté est appuyée par les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés HCR, affirment les organisateurs. Boutembo, Grévis, Saloumou, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, l'ambassadeur André Alain Tunduliungo s'est dit révolté par le naufrage d'un convoi de pirogues motorisées survenu mercredi dernier à quelques 24 kilomètres en amont de la ville de Bumba et ayant coûté la vie à plus d'une cinquantaine de personnes. C'est notable, la province de la Mongala l'a fait savoir à travers un communiqué publié hier mercredi ici à Kinshasa. Il appelle le ministre des Transports de sévir contre le commandant de ce convoi et la négligence des autorités fluviales pour que pareil drame ne se répète plus. On écoute l'ambassadeur André Alain Tunduliungo, joint par Alain Irung.
Au-delà de la vive émotion et de la révolte que suscite ce drame que l'on aurait pu éviter, je demande au ministre de Transport de sévir contre l'inconscience du commandant de ce convoi et la négligence hautement coupable des autorités fluviales chargées de veiller à la sécurité des embarcations. Tolérer la pratique de l'arrimage de plusieurs pirogues, pour quelque motif que ce soit, équivaut à exposer nos citoyens à une mort certaine et à accepter la récurrence de tels drames comme une fatalité. J'appelle le gouverneur et toutes les autorités de Mongala à privilégier la sécurité physique des citoyens habitant la Mongala à la place de l'appât du gain facile. Encore une fois, mes condoléances aux familles éprouvées et toute ma compassion aux autorités de Mongala.
Autre nouvelle, le parc marin des mangroves sur la côte congolaise à Mwanda a une superficie de 75 000 hectares. L'air est sous la gestion de l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, depuis que le gouvernement a décidé de la protéger en 1992. Pendant une randonnée fluviale organisée jeudi 7 octobre dernier par le directeur du DIPARC, Marcel Collet, pour une délégation de journalistes venus de Kinshasa et conduite par le PNUD, le conservateur assistant de l'ICCN, Louis Ngeli, a expliqué l'importance de la forêt des mangroves. Suivez ses propos au micro d'Honoré Missenga Kalala.
D'abord, la forêt des mangroves à Pativier, c'est une forêt qui vit au milieu de l'eau douce et l'eau salée. Ici au Congo, il y en a seulement ici à l'embouchure du fleuve Congo. Et souvent, c'est à l'embouchure. Cette espèce nous aide ici à Mwanda, par exemple. D'abord, c'est l'amortisseur de l'océan. Il empêche l'océan d'envahir Mwanda. Il empêche l'océan d'aller jusqu'à Boma. Deuxièmement, c'est la maternité des poissons. Les 50% des poissons que nous mangeons ici à Mwanda, même à Boma, passent leur cycle de vie dans la forêt de mangrove. Trois, c'est l'unique forêt naturelle qui nous donne l'oxygène. Mwanda est entouré de sociétés pétrolières. Et pas seulement Mwanda. L'Angola n'est pas épargné. La nuit, vous voyez une torchère qui sort de l'Angola. Les fumées viennent. Ces fumées-là n'ont pas de frontières. Mais s'il n'y a pas une forêt qui peut capter ces gaz carboniques pour nous donner l'oxygène, c'est l'unique forêt naturelle. Toutes les forêts que vous voyez s'abondent, c'est les forêts reboisées.
Notons que la faune du parc marin des mangroves comprend entre autres le lamantin d'Afrique et 5 espèces de tortues marines. La protection de ces espèces phares et la sauvegarde du biotope unique du delta du fleuve Congo et du littoral atlantique congolais ont pleinement justifié la création de ces parcs. Par ailleurs, cette aire protégée est inscrite à la convention Ramsar depuis le 18 janvier 1996, ce qui en fait une zone humide d'importance internationale. On retourne au Nord Kivu. 178 ONG environnementales et de défense des droits humains s'opposent au projet de la construction de l'Institut supérieur des techniques d'aquaculture, des pêches et des tourismes, ISTAPT, qui a Viyongé à l'intérieur du parc national de Virunga. Dans une lettre datée du 7 octobre dernier adressée au Premier ministre, ces ONG contestent l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire du 13 août 2021, créant cette université. Bernard Nyangi.
Pour le secrétaire exécutif de l'Alerte congolaise pour l'environnement et les droits humains ACDH, une de ses organisations, le projet de la création de cette institution d'enseignement supérieur spécialisée dans l'aquaculture et la pêche est une bonne initiative. Pour autant, ce projet de construction, selon lui, constitue une menace sérieuse sur l'intégrité du parc national de Virunga, maître Olivier Ndole.
Il a commencé même des travaux de construction au niveau de ce site-là, dans le parc national de Virunga, en violation des articles 25, mais aussi l'article 21 de la loi sur la conservation de la nature qui exigeait à ce que tout investissement à introduire parmi les exceptions dans les parcs devrait faire l'objet d'un plan de gestion du parc. Ce n'est pas un projet indiqué dans ces lieux-là.
Malgré nos efforts, nous n'avons pas obtenu jusqu'ici une réaction du ministre Mouindo Nzangi sur cette question. Selon certaines sources en territoire de Beni, dans une lettre officielle adressée le 17 août à l'administrateur du territoire de Beni, le ministre de l'Enseignement supérieur aurait indiqué que cet institut supérieur créé par l'arrêté numéro 0257 du 13 août 2021 sera construit sur un terrain de 5,20 hectares au bord du lac Édouard, au sud du village Kevinyongé. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, l'université de Kindu vient de lancer sur le marché d'emploi 345 finalistes sortis des 7 facultés. La cérémonie de collation des grades académiques a coïncidé avec celle de la clôture de l'année académique 2020-2021. Le mercredi 13 octobre, au site de l'université Loama 1, devant plusieurs autorités de la province, dont le gouverneur. Florence Kizalunga a participé à cette cérémonie. Voici son reportage.
Centré sur le thème « Une année de consolidation des acquis », l'université a réalisé 79% de réussite. Le recteur s'en félicite. Professeur Patrick Mubambo.
Tout ce que nous avons entrepris comme décision, comme mesure, comme plan d'action, a très bien fonctionné jusque-là. Et nous voulons consolider cela avec d'autres idées innovatrices, notamment maintenant le troisième cycle, la formation de nos étudiants au niveau post-universitaire.
Considéré comme une année difficile suite à la COVID-19, le lauréat remercie les autorités académiques pour avoir clôturé l'année.
Une année académique très difficile due à la pandémie du COVID-19, mais nous nous réjouissons du fait que ce péripétie n'ont pas entamé les soucis et la détermination du comité de gestion à se mettre au service des étudiants.
Prenant la parole, le gouverneur rassure l'université de l'accompagnement du gouvernement provincial. Afan Idrissa.
Nous émettons le vœu de voir le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire prendre d'autres mesures allant dans le sens de diminuer la charge aux étudiants et ainsi faciliter l'accès aux études universitaires au plus grand nombre.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa, l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP a lancé les travaux de construction d'un laboratoire de formation des apprenants en hydroélectricité hier mercredi. D'après Patrick Kayembe Ntsumpi, directeur général intérimaire de l'INPP, ce projet qui se réalise en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, va également augmenter le taux d'accès à l'électricité à Kinshasa et en milieu urbano-rural de la RDC. Le directeur général intérimaire de l'INPP fait cette déclaration au micro de Tati Mapuku.
Le projet tournera sur les axes ci-après. Le développement de modules spécifiques sur les systèmes hydroélectriques et à petite échelle, la formation des opérateurs de services énergétiques et des développeurs, la formation des formateurs, l'assistant technique des opérations d'entretien et de surveillance de microcentrales hydroélectriques et l'accompagnement médiatique. Et c'est enfin d'accroître les taux à l'accès à l'électrification tant dans la province de Kinshasa que dans les milieux urbano-rurales. Ainsi, par le biais du partenariat avec les PNUD, nous apportons notre contribution au processus de mise en œuvre de l'objectif 7 de développement durable à l'accès à l'énergie pour tous par l'entremise de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs de l'électricité et plus particulièrement en énergie renouvelable en République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
En Algérie, le tribunal d'Alger a condamné mardi 12 octobre dernier Saïd Bouteflika, frère cadet et conseiller influent de l'ancien président, à 2 ans de prison ferme pour avoir entravé le bon déroulement de la justice. Plusieurs autres responsables politiques et des puissants hommes d'affaires ont été arrêtés après la chute du régime d'Abdelaziz Bouteflika depuis avril 2019 sous la pression des manifestations du Irak et de l'armée. Ils ont été placés en détention préventive ou condamnés notamment pour des faits de corruption. Et puis en Norvège, un homme armé d'un arc et des flèches a tué plusieurs personnes et en a blessé plusieurs autres mercredi à Kongsberg, dans le sud-est de la Norvège, a annoncé la police norvégienne qui a arrêté un suspect.
L'invité.
L'opposition parlementaire, le Front commun pour le Congo, proteste et dénonce, selon elle, la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par le bureau. Celui-ci a approuvé le rejet de sa motion de défiance contre le ministre des Pétentic. Cette motion a été rejetée à la suite d'une motion incidentielle, source d'une altercation entre le FCC et l'Union sacrée au cours de la plénière d'hier mercredi. Pour en parler, Radio Okapi reçoit ce matin les députés nationaux du FCC, Fidèle Likinda, Leli Dikela, est interrogé par Michel Kibé.
Fidèle Likinda, bonjour.
Bonjour.
Au cours de la plénière de ce mercredi, une plénière très mouvementée, vous vous êtes décidé de claquer la porte encore une fois de plus. Pourquoi cette politique d'abandonner les séances plénières et permettre à l'Union sacrée de décider sans vous?
Nous ne sortons pas pour sortir. Nous sortons pour ne pas être salis et pour ne pas partager la responsabilité de la médiocrité avec les amis de l'autre côté. Nous sommes sortis pourquoi? Parce que le président, par la voix de son rapporteur, nous avait envoyé l'ordre du jour qui était très bien connu, la réponse du ministre des Pétentic. Et puis, la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par notre estimé collègue Emery Okundji. L'ordre du jour a été approuvé par l'Assemblée plénière. Mais à notre grand étonnement, le président de lui-même, sans demander l'avis de la plénière, et ça ne s'est fait même pas, il a inséré la question prévue concernant la motion de défiance. Et c'est pour cette raison que nous avons décrié cette tricherie parlementaire, parce que ça c'est une tricherie orchestrée par le bureau et très présentement par l'honorable président Mbosso. Et nous ne pouvons pas cautionner les mains. C'est pour cette raison que nous sommes sortis.
De toutes les façons, les députés de l'Union sacrée pensent qu'on ne pouvait pas initier une motion de défiance sur une matière qui est déjà sous examen en question orale avec débat.
Je crois que je dois éclairer l'opinion. C'est des procédures différentes. La motion de défiance est l'acte par lequel l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement. Et ça, conformément à l'article 91, 138, 146 et 147 de la Constitution de notre pays. La motion de défiance dans notre règlement intérieur est consignée dans le titre 5. Je dis bien dans le titre 5. C'est une mise en cause. Tandis que la question oral avec débat, c'est un moyen d'information que l'Assemblée exerce sur le gouvernement, sur les entreprises publiques et établissements publics. C'est un moyen d'information. Et là, nous sommes dans l'article 168 de notre règlement intérieur. C'est des procédures tout à fait différentes. Ça n'a pas de rapport. Notre motion de défiance n'avait pas une connexion directe avec la question orale, avec débat de l'autre. Parce que la population congolaise en souffre, parce qu'il y a la clameur publique populaire de cette escroquerie financière au sommet de l'État, c'est ainsi que nous avons initié cette motion de défiance. Puis ils ont mélangé le tout pour tromper l'opinion comme ils ont l'habitude de le faire et d'ailleurs, eux ne respectent même pas le texte.
Maintenant que vous êtes sorti, l'Assemblée plénière, constituée essentiellement des députés de l'Union sacrée, a voté contre votre motion de défiance, donc elle a été rejetée. Qu'est-ce que vous comptez maintenant faire?
Pour nous, on considère que la motion de défiance n'est pas traitée. L'ordre du jour était connu. C'est vraiment illégal. En plus, dans notre règlement intérieur, je crois qu'une motion de défiance ou une motion de censure ne peut pas être arrêté par une motion incidentielle. Jamais ça ne peut pas être arrêté.
En même temps, la plénière reste souveraine, elle a déjà décidé. Vous, FCC, qu'est-ce que vous allez faire pour exercer votre pouvoir de contrôle parlementaire?
Nous sommes sereins. Ce n'est pas parce qu'ils ont cette majorité non authentique fabriquée au cours de la législature, c'est une majorité non authentique, nous ne pouvons pas nous reculer. Nous allons mener les actions dans les jours qui viennent à travers la République. Je suis tout à fait d'accord. J'ai suivi notre frère Jonas Tchombela qui a dit qu'on peut tromper les députés. On peut minimiser les députés, mais on ne trompera pas l'ensemble de la population congolaise. Et donc, dans les jours qui viennent, notre famille politique, sur cette question des rames, va mener des actions à travers toute la République. Et je crois qu'on va vous annoncer officiellement.
Fidèle Ekinda, je vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.